Radio Présence met sa grille aux couleurs de l'été avec une sélection des meilleures émissions et de nouveaux rendez-vous. Radio Présence, ressourcez-vous.
Présence.
Radio Présence, 15h.
Les arts sacrés. Les arts sacrés, une émission proposée et présentée par Marie-Madeleine Rey.
Bonjour à tous. Le thème qui va nous occuper aujourd'hui est celui de l'aveugle né. La guérison miraculeuse d'un aveugle est relatée chez les quatre évangélistes. Il y a d'ailleurs plusieurs guérisons d'aveugles dans des lieux différents. Jérusalem, Bethsaïde ou Jéricho. L'évangile de Jean nous raconte l'épisode de l'aveugle né à Jérusalem. Au chapitre 9, versets 1 à 41, voilà ce qu'il raconte. En sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. Il cracha sur le sol et avec la salive, il fit de la boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom signifie « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui étaient habitués à le rencontrer, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui affirmait « C'est bien moi ». On amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent « Comment se fait-il que tu vois ?» Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant je vois. » Certains pharisiens disaient « Celui-là ne vient pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres répliquaient « Comment un homme pécheur pourrait-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Ils répliquèrent « Tu es tout entier plongé dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait expulsé. Alors il vint le trouver et lui dit « « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Vous l'avez peut-être remarqué, c'était la lecture brève de cet évangile, puisqu'il est beaucoup plus long. Et c'est avec un objet bien particulier, au nom rarement employé dans le langage courant, que nous allons aborder le thème de l'aveugle né. En effet, il s'agit de décrire le relief qui orne une pyxide, cette boîte qui servait à transporter les hosties. C'est le synonyme de custode. Cette pyxide en ivoire date du 6e, 7e siècle environ et se trouve au Louvre. Elle est ronde et ornée de la scène de la guérison de l'aveugle né. On y voit très nettement, en relief, les protagonistes de la scène. Jésus marche vers l'aveugle en le bénissant de sa main droite, index et majeur accolés, dans la gauche, la croix du futur vainqueur de la mort. L'aveugle lui fait face, debout, tenant un bâton dans sa main gauche, tandis que la droite s'abandonne à la bénédiction du maître. Il est certes debout, mais son genou droit en avant semble fléchir d'humilité devant le Fils de Dieu. Derrière lui, un palmier. Et derrière Jésus, deux apôtres portant un livre assistent Jésus. Cette scène, bien examinée, pourrait s'appliquer aux autres guérisons d'aveugles, nés ou pas, car une arcade protège les deux apôtres. Ici, ce peut être la porte par où sont sortis Jésus et ses apôtres. Et le palmier est réellement présent, à Jéricho, puisqu'il s'agit d'une oasis, donc ce serait un autre évangile. Mais ce peut être aussi la porte du temple, puisque L'évangile de Jean commence par « En sortant du temple ». Nous allons nous arrêter maintenant sur une enluminure de la fin du Xe siècle qui orne avec 50 autres ce que l'on appelle l'évangéliaire d'Egbert. Archevêque de Trèves, en Allemagne, Egbert reçut ce codex illustré d'enluminure par des artistes de la Reichenauer Schule, située près du lac de Constance, entre 980 et 993. C'est un recueil des scènes évangéliques qui accompagne l'année liturgique. L'ouvrage est de petite dimension, puisqu'il mesure 10 cm sur 13. Que ce livre, Egbert, te soit une source de joie dès ici-bas, est-il écrit en exergue sur la double page frontispice. L'image qui illustre la guérison de l'aveugle-né est très explicite dans sa naïveté. Même personnage que dans l'exemple précédent, deux apôtres à gauche, Jésus au centre et l'aveugle à droite. Un apôtre écarte les bras devant le miracle. Jésus tend le bras droit pour la bénédiction vers l'aveugle, tandis que sa main gauche retient le manteau devant lui. Et l'aveugle, vêtu d'une courte tunique rouge, se tient appuyé sur son bâton et de la main droite désigne ses yeux. Mais ce qu'il y a de remarquable dans cette petite vignette, ce sont les deux constructions qui se trouvent derrière l'aveugle. Une fine et haute colonne circulaire, aux pierres grises ajustées, supporte un grand oiseau coloré que l'on reconnaît comme étant un phénix. Avec ses longues plumes chatoyantes et sa huppe rouge flamboyante. De son bec jaillit une source abondante qui se déverse sous l'oiseau dans une sorte de citerne très haute et circulaire, elle aussi, aux mêmes pierres grises que la fine colonne. L'allusion à la fontaine de Siloé, à la source régénératrice, doublée de celle du phénix qui renaît de ses cendres, est ici très explicite. Le lavement des yeux par l'eau sera renaissance pour cet homme qui n'a jamais pu voir de sa vie. L'eau de la piscine, allusion à l'eau du Jourdain ou Jean baptisé, devient pour tous ceux qui suivent Jésus eau du baptême de renaissance à une nouvelle vie. Et cet homme plein de foi n'a pas hésité à aller se laver à la piscine, croyant Jésus sur parole. Avançons un peu dans le temps avec ce troisième exemple de l'aveugle-né, pris parmi les mosaïques de la cathédrale de Monreale, près de Palerme, en Sicile. Datées du XIIe siècle, ces mosaïques sont très expressives et annoncent déjà les futures bandes dessinées. En effet, sur les deux tiers gauches de la représentation, la scène que nous connaissons maintenant par cœur, avec les apôtres, Jésus et l'aveugle, devant un paysage de montagne coiffé de pierres. Ici, il y a quatre apôtres, dont Pierre et Jean. Jésus touche de son index droit l'œil gauche de l'aveugle, qui, lui, est penché en avant pour recevoir la précieuse boue, écartant la main gauche de surprise et s'appuyant sur son bâton. L'originalité de l'artiste lui a fait placer dans le dernier tiers droit le même aveugle. Il est habillé de la même façon que celui que touche Jésus. Le même aveugle est assis sur la berge d'un fleuve qui coule en diagonale dans l'angle droit. L'onde est traduite en grasse rayure bleutée, ondulante, et l'aveugle puise d'une main l'eau guérisseuse, alors que de la droite, il se l'applique sur les yeux. La piscine de Siloé est symbolisée par ce fleuve coulant largement dans la nature, en une seule image. L'artiste a représenté les deux épisodes de l'histoire, la mise de la boue sur les yeux et le lavement des yeux dans l'eau. Pour trouver d'autres exemples de cet épisode concernant l'aveugle-né, nous allons sauter quelques siècles et arriver au XVIe, avec le peintre espagnol Le Greco. Peinte vers 1565 et ornant les cimaises du musée de Dresde, sa guérison de l'aveugle-né se déroule sur une esplanade bordée par un palais néoclassique avec une arcade courant autour de l'édifice, symbolisant le temple de Jérusalem. Sur un sol dallé, beaucoup de personnages sont présents. À droite, les disciples qui discutent de façon véhémente. À gauche, au premier plan, Jésus, vêtu de bleu et de jaune, calmement, passe son doigt sur les yeux de l'aveugle. Ce dernier s'abandonne dans la confiance. Il est agenouillé devant Jésus, un fin bâton dans la main droite, et a tendu son bras gauche pour poser sa main sur celle de Jésus. Son visage est tendu vers le Christ, tandis qu'il se laisse ouvrir les yeux. Épiant de très près le miracle de Jésus, un gros homme, habillé de vert, constate de visu l'ouverture des yeux de l'aveugle. C'est un point d'humour qu'a voulu glisser le peintre dans son œuvre. Cet homme, incrédule, se permet de rapprocher son visage de celui du miraculé, au point de le toucher, mais il veut être le premier à constater l'efficacité du geste de Jésus. Derrière lui, quatre autres personnages semblent se désintéresser de la scène. Une autre œuvre, anonyme celle-ci, du XVIIe siècle, et dans la verve du Caravage, représente la scène de la guérison de l'aveugle né de plus près. Nous sommes à notre tour des intimes du miracle. Trois personnages au premier plan, l'aveugle est assis à gauche, un simple linge autour des reins. Dans la main droite, il tient un bâton appuyé sur le sol. De la gauche, il semble dire à Jésus « Que je vois !» Il se laisse faire, ses yeux fermés, dans le contre-jour ménagé par le peintre, un bandeau blanc dans ses cheveux noirs. Jésus est au centre, debout, habillé de rouge vif et de bleu outre-mer. Il est penché vers l'aveugle et sa main droite effleure son visage confiant. Le visage du Christ, lui, est très éclairé, barbe et cheveux dévoilant une figure sereine et pleine de bonté. Le troisième personnage est à droite, lui aussi barbu et chevelu, un peu chauve, vêtu de beige et de blanc. Il regarde avec intérêt le geste de Jésus. De la main droite, il serre son manteau sur sa poitrine et la gauche pend le long de son côté. Ses mains sont d'une précision photographique. Les veines et les nœuds des phalanges expriment l'âge du personnage. Ce ne peut être que Pierre. Derrière eux, cinq autres personnages spectateurs tendent le cou pour voir. Un, en particulier, dont le visage s'aperçoit sous le bras de Jésus, bouche ouverte et yeux rivés sur cette main guérisseuse. Comme à l'habitude, sur des tableaux de cette lignée caravagesque, le fond est neutre pour ne pas divertir le spectateur. Ici, il est brun fauve.
Présence à Saint-Céré, 95.8.
Toujours au XVIIe siècle, nous trouvons un peintre belge, Jacques Nicolai, qui, pour la cathédrale Saint-Aubin de Namur, peint la guérison de l'aveugle né dans une œuvre réaliste. La scène se déroule à la lisière d'un bois et le miracle a plusieurs témoins qui accompagnent Jésus. Mais nous ne sommes pas près de Jérusalem, nous sommes dans les Flandres. Jésus, pied gauche en avant, avance sa main droite vers l'aveugle, déjà agenouillé à l'approche de Jésus. Les yeux fermés, il s'appuie sur son bâton des deux mains et attend la lumière. C'est un jeune homme, imberbe. Les autres personnages s'agitent autour. Pierre, à droite, derrière Jésus, et nous tournant le dos. Il prend deux juifs à témoin qui semblent plus dubitatifs. Il est tout excité et veut à tout prix convaincre que Jésus est en train de faire un miracle. À l'arrière-plan, mais très précisément peint, Jean, le plus jeune, regarde avec acuité Jésus en train de guérir l'aveugle. Le visage de Jean est rivé sur la nuque de Jésus. Il n'a Dieu que pour lui et son action. À gauche, un groupe de personnages tout acquis à Jésus. Deux disciples d'âge mûr au fond, une femme et son bébé sur son épaule, un autre jeune homme assis. Tous regardent Jésus et l'approuvent. Ils sont dans le ravissement de l'œuvre accomplie par le Christ. Un détail touchant, le petit enfant sur les épaules de sa mère met un doigt dans sa bouche tout en ne lâchant pas Jésus des yeux. Il est captivé par la puissance de l'action du Fils de Dieu. Cela fait partie du réalisme des peintres de cette époque qui se sont beaucoup inspirés de l'œuvre du Caravage. Pour preuve, ces pieds nus des disciples et de l'aveugle, pieds de marcheurs ou d'hommes délaissés, pieds sales et luisants. À la fin du XVIIe siècle, une œuvre dessinée par François Lemoine en 1688, puis peint ensuite par son élève Charles-Joseph Natoire, se trouve au musée des Beaux-Arts de Poitiers. C'est l'œuvre dessinée par François Lemoine qui se trouve à Poitiers. L'œuvre de Natoire se trouve en Arles. Voici ce qu'en dit M. Daniel Clausier dans son ouvrage « Dessin d'histoire, histoire de dessin », paru à Poitiers en 2009. Le Christ occupe le centre du dessin. Il se penche vers l'aveugle accroupi sur les marches du temple. L'édifice classique sert de fond avec ses colonnes et entablements et ferme la composition à gauche. Celle-ci s'ouvre à droite sur d'autres constructions lointaines parmi lesquelles on remarque une sorte de pyramide. Des marches arrondies au premier plan font saillie vers le spectateur. L'ensemble de ces architectures présente une perspective exagérée, projetant de façon saisissante ce premier plan vers l'avant. On y observe une femme accroupie avec un enfant et un homme de dos qui s'élance vers le Christ. À droite, la foule gesticule en direction de l'événement, alors qu'à gauche, des hommes s'en vont en tournant la tête. Le dessin est ainsi parcouru d'un superbe mouvement de vagues, allant de droite à gauche, transcrivant de façon dramatique la teneur miraculeuse de la scène. Ce dessin est la première mouture d'un tableau, donc je vous le disais, qui se trouve maintenant à l'hôtel de ville d'Arles. L'œuvre peinte est légèrement différente du dessin préparatoire. Écoutons encore M. Clausier. Le tableau présente beaucoup moins de personnages et des variations se voient dans les gestes du Christ et ceux de son entourage. De même, les personnages secondaires sont placés différemment. Un seul prêtre remplace le groupe de gauche et il ne part plus, mais reste debout, regardant le Christ d'un air consterné. La femme accroupie semble partir vers l'avant, avec un enfant en plus. Des personnages apparaissent entre les colonnes, à la manière d'un Véronèse. Le canon est également beaucoup plus classique. L'ensemble gagne donc en sobriété et classicisme, mais perd toute la fougue dramatique qui en faisait l'originalité. Il est malaisé de savoir si ces différences découlent toutes de la volonté de Lemoine ou non. En effet, inachevée au moment du suicide du peintre en 1737, la toile fut complétée par son élève le plus fidèle, Charles-Joseph Natoire. Tel qu'il se présente aujourd'hui, le tableau est plus proche du style élégant, ferme et quelque peu sage de Natoire, sans la vivacité ressentie dans le dessin préparatoire. De surcroît, le tableau a été partiellement amputé dans sa partie droite. Cela se vérifie par la présence d'un personnage regardant curieusement hors champ. Ce personnage que l'on retrouve à l'extrême droite dans le dessin indiquait du doigt la scène à un autre, Il est difficile de savoir à quel point le tableau a été coupé. S'arrêtant au niveau de la colonnade en perspective, il perd son ouverture vers le ciel, peut-être le moine lui-même, en modifiant sa composition, avait-il déjà ôté cette ouverture afin d'obtenir un format plus carré et tassé. Le dessin de Poitiers est donc un témoignage précieux de l'histoire de cette œuvre, certainement lié à une commande pour une église parisienne. Voilà, c'est la fin de citation de l'ouvrage de M. Daniel Clauzier. Toujours au XVIIIe siècle, le Rouennais Jean Restoux peint la guérison de l'aveugle-né qui se trouve à l'abbaye aux Hommes à Caen. Ici encore, trois personnages principaux. Le Christ, au centre, encore en rose et en bleu, tend la main droite vers l'aveugle à genoux. Le pouce de Jésus appuie sur l'œil gauche fermé du mendiant et celui-ci est humblement agenouillé et penché, recevant la caresse libératrice. À droite, dans une attitude pieuse, puisqu'il a les mains jointes, Pierre est debout, le visage baissé, en signe de prière. Le miracle s'accomplit sous les yeux d'un vieillard attentif, à droite, derrière Jésus, d'une femme plus désintéressée, et de deux autres hommes qui, eux, semblent discuter entre eux sur ce qu'ils sont en train de voir. Une architecture à corniche ferme le fond aux deux tiers, et la perspective s'enfonce vers le ciel barré par un arbre. Un croquis de Jean-Baptiste Carpeau, conservé au cabinet des dessins du musée du Louvre, nous montre la scène inversée par rapport à toutes les œuvres que nous venons de voir. En effet, l'aveugle est ici à droite, probablement agenouillé, car Jésus n'a qu'à poser sa main droite sur ses yeux sans se baisser. L'aveugle tend ses deux mains vers Jésus, en geste de supplique, son bâton en travers. Il est barbu et n'est pas de la première jeunesse. Au fond, un personnage écarte sa main gauche en signe d'étonnement et de joie devant la guérison opérée par Jésus. Derrière, le Christ, un disciple, met ses deux mains dans le dos du Christ pour mieux voir et se réjouit aussi. On aperçoit un autre personnage à l'arrière, mais simplement esquissé, tandis qu'un enfant, à gauche, arrive en courant pour assister à l'événement avec curiosité. Cette œuvre de Carpeau, qui n'est qu'un dessin, est déjà remplie de l'essentiel. La vie jaillit de ses coups de crayon, le mouvement est présent dans l'attitude des personnages secondaires, alors que l'acte guérisseur s'accomplit dans la douceur et la confiance. Les plis des vêtements sont soignés et donnent à l'œuvre une ambiance de sérénité. L'instant du miracle est capté par l'artiste en donnant l'impression que le geste a été fugace et rapide. Jésus ne s'est pas attardé, mais il a rendu la vie à l'aveugle qui y aspirait de tout son cœur. Cette vie rendue, ou plutôt donnée à l'aveugle par Jésus, elle est bien réelle dans une œuvre contemporaine qui se trouve à l'église de Champagné-Saint-Hilaire, dans la Vienne. C'est un vitrail anonyme, extrêmement lumineux, qui montre Jésus debout, au centre, qui prend quasiment toute la hauteur du vitrail. Le Christ est d'une blancheur éclatante. Auréolé d'un chrisme vert, couleur de l'espérance, sa tête se penche vers l'aveugle. Celui-ci, plus petit, lève son visage vers Jésus, les yeux ouverts, les mains écartées, la cambrure de son dos dévoilant un recul imperceptible. Une écharpe violette l'entoure et la couleur n'est pas innocente. Le violet, c'est aussi le deuil, la souffrance. L'aveugle recherche la guérison, donc la vie, et sait que Jésus peut la lui donner. Le regard de Jésus est accompagné d'un fort rayon blanc souligné de deux rayons verts plus fins. L'artiste a voulu insister sur ce regard de Jésus, impressionnant, qu'accompagne la main qui semble vouloir rentrer dans les yeux aveugles. Et au cas où on n'aurait pas reconnu l'épisode, l'artiste l'a inscrit sur son vitrail. L'aveugle-né est mentionné à droite, tandis qu'à gauche, les paroles de l'aveugle Bartimée sont reprises en graphismes variés. Jésus, fils de David, ayez pitié de nous. Bartimée et l'aveugle dont parle saint Marc au chapitre 10 et dont il situe le miracle à Jéricho. Ce vitrail, tel que je vous l'ai décrit, serait suffisant, tellement il est fort de sens. Mais je n'ai pas fini de vous le décrire. Dans la partie gauche, vers le bas, deux personnages sont enlacés. Un, vêtu en marron, est agenouillé et reçoit dans ses bras un personnage endormi et dont les membres inférieurs sont enserrés dans des bandelettes. On dirait une sorte de cocon blanc-jaune. L'abandon de cette « larve », entre guillemets, si j'ose dire, fait immédiatement penser à Lazare, que Jésus vient réveiller et libérer de la mort. Parallèle saisissant entre l'aveugle né, qui renaît en recouvrant la vue grâce à Jésus, et Lazare, qui renaît de la mort, également grâce à Jésus. Œuvre contemporaine, ce vitrail de Champagnier Saint-Hilaire résume avec force l'ampleur du miracle de la guérison de l'aveugle né. Nous en avons terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre fidélité. Merci Armand. À bientôt sur votre antenne.
Les arts sacrés. Une émission qui vous a été proposée et présentée par Marie-Madeleine Rey.
Présence. Pour joindre Présence, quatre moyens sont à votre disposition. Le téléphone 05 62 48 63 00. Le fax 05 62 48 63 01. Le courrier 4 rue des Feuillants, 31300 Toulouse. Et le courrier électronique contact@radioprésence.com.